Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse a révélé qui il était. Puis, aidé par ses quelques fidèles, il a massacré les prétendants. Il a ensuite purifié sa maison pour en chasser le mal. Pénélope ne veut pas croire que ce mendiant soit Ulysse. Non seulement elle hésite à le reconnaître, mais elle se persuade d'une manipulation. Elle vient d'avoir une idée pour le démasquer. Elle a prétendu que son lit pouvait être déplacé. Or, il est construit autour d'un arbre enraciné. Ulysse est le seul à connaître ce secret. Il peut ainsi se faire reconnaître à sa femme. Et c'est l'heure des retrouvailles. Il est des chemins qui s'impriment dans le corps pour toujours. Nos pieds les reconnaissent. Nos yeux en caressent chaque courbe, chaque bosse. Pour Ulysse, il en était ainsi de celui qui menait du palais d'Ithaque au domaine appartenant à Laërte, son père. Ce matin-là, il l'emprunte avec Télémaque, Eumée le porcher et quelques amis heureux de le retrouver. La terre gorgée de soleil est brûlante, mais les lauriers qui bordent la route sont si hauts qu'ils offrent leur fraîcheur aux marcheurs. Roses, blanches, rouges, leurs fleurs éclatantes semblent n'avoir fleuri que pour saluer le retour d'Ulysse. La beauté d'Ithaque ravit le cœur de celui qui a tant soupiré après son île. Il se félicite de n'avoir encore rien dit de son prochain départ à Pénélope. C'est trop tôt. Il n'a pas pu. Il a préféré la laisser savourer quelques heures, quelques jours, ce bonheur retrouvé. Lorsqu'il approche de la maison de Laërte, Ulysse sent une boule d'émotion lui serrer la gorge. Autrefois, Anticlée, sa mère, se postait toujours sur le seuil pour l'accueillir. On voyait sa silhouette de loin se détacher sur la pierre blanche. Elle l'avait fait quand, jeune homme, il était venu présenter Pénélope à ses parents. Les deux femmes, en se voyant, avaient d'abord échangé un long regard muet. L'un disait « Regarde mon fils comme il est beau, j'en ai pris grand soin. » L'autre répondait « Ton fils est un homme superbe, à mon tour d'en prendre soin, n'aie crainte. » Puis, en un geste instinctif, elle s'était tendue les deux mains et les avait serrées longuement, comme un pacte, une transmission d'amour. C'était la même silhouette qui l'attendait sur le seuil de la petite maison lorsqu'il était venu présenter son fils. Il lui avait donné le bébé sans un mot, et elle l'avait attiré contre elle, avec les doux gestes de la grand-mère qu'elle devenait. La dernière fois qu'il l'avait vue ainsi, c'était le jour de son départ pour Troie. Mais Ulysse préfère oublier le visage baigné de larmes de sa mère et ses derniers mots. « Ne tarde pas trop, mon fils, j'ai peur de ne pouvoir t'attendre bien longtemps. » Aujourd'hui, Ulysse sait qu'aucune petite silhouette ne se penchera sur le perron pour l'accueillir. Les larmes lui mouillent les yeux. Il préfère faire un détour de quelques mètres avant d'atteindre la maison et passer par le grand verger où, il en est sûr, son père s'occupe des arbres. « Entrez dans la maison, préparez un bon repas, mes amis. J'arrive. » Le jardin est aussi soigné qu'à son habitude. Des plants de tomates mûres, des courgettes, des aubergines au ventre rebondi voisinent avec de frais oignons blancs et des poivrons verts. Au-delà du carré de légumes, des arbres ploient sous le poids de leurs fruits. Un peu plus loin, on devine la vigne où rougissent de grosses grappes de raisins. L'endroit semble désert. Soudain, au détour d'une allée, Ulysse aperçoit son père. Il est occupé à dégager la terre autour du tronc d'un figuier trapu. Il bêche avec des gestes lents et précis. Lorsqu'il lève la tête pour observer l'étranger qui arrive, Ulysse est bouleversé par son visage vieilli, sillonné de rides. Il porte un vieux manteau rapiécé, couvert de boue, une toque malpropre en poils de chèvre sur la tête. Il a enveloppé ses jambes pour les protéger des écorchures et des épines, de sorte de guêtres en peau de bœuf. « Qui es-tu, étranger, et d'où viens-tu ? » lui demande Laërte. Ulysse décide de ruser un instant. Je suis un Crétois, répond-il. J'ai fait naufrage et je viens d'arriver sur cette île, mais j'ignore son nom et qui en est le maître. Et toi, jardinier, qui est ton maître ? Le vieillard s'appuie sur sa bêche en soupirant. Tu es arrivé sur Ithaque, la malheureuse. Elle a perdu son roi Ulysse depuis fort longtemps. Elle se retrouve livrée à la débauche de jeunes gens, aussi stupides que brutaux. Ulysse feint la surprise. Ah ? Ulysse ? Mais je l'ai accueilli dans ma maison ! À ces mots, la joie du vieil homme transfigure son visage. D'une voix tremblante, il dit « Mon fils ? Tu as eu mon fils dans ta maison, mais quand ? Il y a longtemps ? Et comment allait-il ? » Ulysse répond « Il allait très bien. Il était sur le chemin du retour vers son pays, mais cela fait déjà, voyons, au bien 5 ans maintenant. » La lueur de joie sauvage qui s'était allumée dans le regard de Laërte s'éteint aussitôt. Il se met la tête dans les mains, il sanglote doucement. Ulysse, bouleversé, se précipite. Il prend le vieil homme dans ses bras. « Père, père, c'est moi, Ulysse, ne pleure plus !» Mais Laërte se dégage d'un geste brusque. « Ah, tu n'es pas drôle, étranger, et tu te moques bien cruellement du chagrin d'un père !» Ulysse se jette à ses pieds, il lui serre les genoux. « Oh, père, excuse ma mauvaise blague, mais oui, c'est bien moi, je t'assure !» Laërte le dévisage et crache entre ses dents. « Je ne te crois pas !» Il saisit sa bêche d'une manière menaçante, comme pour chasser cet étranger. « Comment Ulysse va-t-il faire ?» pour se faire reconnaître. « Mais père, regarde mon genou !» crie Ulysse. « Tu te souviens ? Un sanglier m'avait embroché lorsque j'étais petit et vous m'aviez envoyé chez mon grand-père, au Tolikos. » Mais Laërte jette un regard dédaigneux sur la cicatrice. Il dit obstiné. « Tout le monde connaît cette histoire et il n'y a pas que mon fils pour avoir une cicatrice au genou. » Alors Ulysse a une idée. « Je te propose de me suivre. » Et je vais te raconter ton jardin. » Sans plus attendre, il se dirige vers un gros poirier chargé de dizaines de petites poires vertes, dures et savoureuses. « Tu te souviens, quand j'étais petit, je grimpais dans ce poirier pour attraper les fruits les plus hauts, les plus proches du ciel. Je les aimais gorgés de soleil. Et tu as fini par m'offrir 13 poiriers, juste pour moi. » « Ils doivent être plantés là-bas. » Et Ulysse indique d'un geste une rangée du verger que l'on aperçoit sur la droite. « D'ailleurs, tu m'as fait aussi cadeau de 10 pommiers, de 40 figuiers et de 50 pieds de vigne, n'est-ce pas ? J'espère que tu en as pris soin pendant mon absence. » Les mains de Laërte se sont mises à trembler. Sa bêche lui échappe. Ulysse poursuit. Et ce figuier dont tu étais en train de t'occuper. Te souviens-tu, père, que c'était mon préféré ? Je pouvais manger tant de ces figues blanches et sucrées que je m'en rendais malade. Tous les étés. Laërte sourit enfin. Il complète. Ce n'était pas d'en manger trop qui te rendait malade. C'était ton impatience. Tu ne pouvais pas attendre qu'elle soit mûre. Tu as toujours été si impatient, mon fils. « Père, répond Ulysse, j'ai été obligé d'apprendre la patience pendant toutes ces années. » Cette fois, le vieil homme lui ouvre grand les bras et il chuchote. « Maintenant je peux mourir. » Et ses mains dans la main qu'il regagne la maison, sans un mot de plus. Les préparatifs du repas sont terminés. Une bonne odeur de cochon grillé se répand dans l'air. Laërte se lave. Il revêt des habits propres, soignés, avant de passer à table. En le voyant reparaître, Ulysse le trouve rajeuni. « Je ne l'ai jamais vu comme ça !» lui glisse Télémaque à l'oreille. « J'ai grandi avec un grand-père qui n'était qu'une ombre attendant une autre ombre. » Le vieillard ne cesse de répéter. « Oh, oh, comme ta mère serait heureuse ! Mais comme ta mère serait heureuse ! Les viandes grillées, les salades, légumes et fruits du jardin, le vin rouge coulent à flots. Tout met les convives en joie. quand soudain la porte s'ouvre et Pénélope entre presque en courant, hors d'haleine. Sans reprendre son souffle, elle crie « Ulysse, Ulysse, vite, prends tes armes ou cache-toi. Les familles des prétendants arrivent ici pour réclamer vengeance. J'ai couru devant pour te prévenir. » Aussitôt, voilà Ulysse, Télémaque et les autres qui revêtent leurs boucliers, se saisissent de leurs lances et se préparent au combat. Ulysse a juste le temps de remercier Pénélope et de prendre position devant la maison. Déjà, des clameurs se font entendre. « À mort, Ulysse ! Justice pour nos enfants ! Dehors, l'assassin !» On devine sur le chemin une foule armée de piques et de lances qui se dirige d'un bon pas vers la maison de Laërte. Certains portent des torches, d'autres sont juchés sur le dos d'un âne. Ulysse jette un coup d'œil hésitant à son fils posté à sa droite. « Ils sont nombreux et bien armés, mon fils. La partie sera difficile. J'espère que tu seras à la hauteur. »« N'aie crainte, » répond Télémaque. « Accorde-moi ta confiance et tout ira bien. Je serai digne de toi. » Laërte s'est placé un peu en retrait, mais il ne perd rien de la scène. Il dit simplement « Quand je vous regarde, le père et le fils, je suis fier de vous. Et je sais que nos ancêtres le sont aussi. » Mais Pénélope, elle, est aussi pâle que sa robe. Elle a envie de crier, de hurler même. « Ce n'est pas possible. On ne la laissera donc jamais en paix. Son fils, maintenant, et son mari enfin retrouvé, vont-ils, eux aussi, être attaqués ?» La troupe en furie s'immobilise à quelques pas de la maison où se tiennent Ulysse et ses compagnons. De gros nuages noirs menacent d'éclater en un orage violent. « Ulysse !» crie l'un des assaillants. « Nous sortons de ton palais où nous sommes allés chercher les cadavres de nos enfants. Tu dois payer pour ce crime !» Un coup de tonnerre retentit et accompagne ces mots. « Tu entends ? Même Zeus est en colère contre toi !» gronde un autre. Ulysse, bouillant de colère à son tour, s'apprête à ajuster sa lance et à déclencher la bataille. À l'intérieur de la maison, Pénélope n'ose plus regarder à la fenêtre. Elle enfouit sa tête dans ses mains, soudain lasse et désemparée. Et voilà que surgit à ses côtés la vieille Oumariaca. D'un ton pressant, elle lui dit « Pénélope, Zeus a pitié de toi. Il ne veut pas que le sang coule à nouveau sur Ithaque. Va, va et sépare les combattants. Tu as ma protection. » Mais Pénélope saura-t-elle arrêter ce combat ? Quelques rares boucliers renvoient les éclats du soleil couchant sur les visages des combattants. Comme si le sang qui s'apprête à nouveau à couler marquait déjà la figure des adversaires. Ulysse observe ceux qui vont lui livrer bataille. Il reconnaît parmi eux quelques riches propriétaires d'Ithaque, d'autres venant des îles voisines. Tous l'ont aidé à préparer son départ pour Troie, car il était leur roi avant cette guerre qui a tout bouleversé, tout ravagé. Sa colère retombe d'un coup. Un léger soupir lui échappe. Se battre, encore se battre, et contre ceux qui furent ses amis. Voyant qu'Ulysse hésite à envoyer sa lance, le père d'Eurymaque s'avance. « Ulysse, tu es un ingrat. Sans nous, nos hommes, nos vivres, tu n'aurais jamais pu partir te couvrir de gloire sous les murailles de Troie. Et voilà comment tu nous remercies, en tuant nos fils !» Sans attendre la réponse, il envoie sa lance sur Ulysse. Aussitôt, les assaillants, qui sont 10 fois plus nombreux, se ruent sur Ulysse et ses amis. C'est alors que Pénélope surgit de la maison. Elle se jette entre les combattants. « Halte ! Arrêtez-vous donc !» Surpris, chacun baisse son arme. « Mais n'avez-vous pas honte ? Vous massacrez entre vous ? Mais qui est coupable de quoi ? Vous tous !» Vous avez laissé vos enfants déshonorer la maison d'Ulysse pendant des années. Vous les avez laissés non seulement s'installer chez nous, profiter de nos réserves, de nos serviteurs, dégrader notre palais, mais surtout, qu'avez-vous fait, vous, parents, pour qu'ils cessent de m'humilier ? Un nouveau coup de tonnerre retentit, comme si Zeus approuvait sa colère. Elle poursuit. « Êtes-vous venus les chercher pour les renvoyer à la maison ? Avez-vous cherché à connaître la manière dont il se comportait? Vous saviez qu'il s'enivrait et m'insultait sous mon propre toit, n'est-ce pas? Pénélope plonge son regard étincelant dans les yeux de chacun des hommes armés qui lui font face. Un par un, il baisse la tête, gêné. Ulysse est plein d'admiration pour le courage et la force de conviction de Pénélope. Rien ne semble pouvoir la faire taire, comme si, après 20 ans de silence, les mots se libéraient soudain. Vous ignorez ce que j'ai souffert pour repousser leurs avances de pourceau. Et vous êtes tous des lâches de m'avoir laissé devenir leur proie. Mais je ne vous en veux pas. Maintenant, je ne vous demande qu'une chose. La paix. Jetez vos armes. Que chacun rentre chez soi. Si vous massacrez mon mari et mon fils, vous ne ferez pas revivre vos enfants. Mais vous poursuivrez leur œuvre de destruction. L'orage bat son plein. La pluie ruisselle sur les visages, comme si les dieux offrait des larmes bienfaisantes pour laver la souffrance de chacun. À la lueur des éclairs qui zèbrent le ciel, Ulysse a l'impression de voir s'adoucir ses figures farouches. Ces hommes n'ont pas le cœur mauvais. La douleur, parfois, se transforme en aveuglement, et eux aussi souffrent d'avoir perdu les êtres qui leur étaient les plus chers. Ulysse fait un pas en avant et jette ses armes aux pieds de Pénélope. Tes paroles sont sages, mon aimé. Je regrette ce qui s'est passé. Je comprends votre douleur. Je comprends votre colère, mes amis. Je me sens terriblement coupable. Mais il ne faut plus que le sang coule sur notre île. Plus jamais. Alors, un premier homme s'avance. Il lâche son arme aux pieds de Pénélope. Puis tourne le dos. Il repart sur le chemin. Un deuxième, puis un troisième font de même. Lentement, chacun renonce à se battre et rentre pleurer son mort. Lorsque le dernier s'est éloigné, il fait nuit noire. L'orage a cessé. Les dieux semblent apaisés. Pénélope, elle, tremble. Sa robe blanche trempée lui colle au corps. Ulysse la prend par la taille, dépose un baiser sur son cou mouillé et lui dit « Tu es la femme la plus extraordinaire du monde. » Pénélope sourit faiblement. « Cette fois c'est fini, mon homme. Tu restes à mes côtés, en paix et en vie. » Et c'est le moment qu'Ulysse choisit pour lui dire la vérité. « Hélas, pas tout à fait, ma douce. Je suis obligée d'accomplir mon destin. Je dois repartir très vite pour clore mon voyage. Le devin Tirésias me l'a annoncé. Je dois marcher, une rame sur l'épaule, jusqu'à un pays qui ne connaît ni le sel, ni la mer, ni les bateaux. Alors, là, je pourrai planter ma rame en terre, faire des offrandes à Poséidon, et sa colère contre moi s'éteindra. C'est à cette seule condition que je finirai ma vie, dans une longue vieillesse. Je ne peux pas me dérober. » Pénélope vacille, prise de vertige. Son homme va-t-il encore lui être arraché ?